Ce sont les meilleurs amis des scénaristes qui les placent et les déplacent, les font ressurgir ou disparaître pour donner du sens, du suspense, de l'émotion. Une bague au fond d'un tiroir, un revolver furtif, une carte dans la manche, un déshabillé sur une chaise, un chiffon rouge, une bicyclette volée. Les objets se baladent incognito ou en gros plan, perdus ou retrouvés, au choix, mais toujours là quand on en a besoin. Le grand Alfred a théorisé leur utilisation dans ses films lors d'une conférence donnée en 1939 à l'Université de Columbia. Au studio, dit-il, nous appelons ça le MacGuffin. C'est l'élément moteur qui apparaît dans n'importe quel scénario. Dans les histoires de voleurs, c'est presque toujours le collier, et dans les histoires d'espionnage, c'est fatalement le document. D'ailleurs, en soi, le MacGuffin n'a guère d'importance, on le recherche et on le poursuit, mais parfois même on l'oublie. D'autres réalisateurs ou scénaristes, au contraire, les prennent très au sérieux, ces objets qui incarnent, matérialisent le désir, la vengeance, l'amitié, toute une vie. Certains, enfin, leur donnent toute leur place dans le titre, dans l'histoire, dans la vie. Et c'est à cela qu'on s'intéresse aujourd'hui, à des objets qui s'animent, s'illuminent et deviennent comme des amants, tendres, possessifs ou jaloux, les objets de toute une vie, ou presque. C'est tout de suite dans Les Pieds sur Terre, avec deux trouvailles extraordinaires et une perte, un collier, un alto et quelques poupées, des récits menés par Stéphanie Thomas avec un coup de main de Karine Lelouette.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Alors en fait, je venais de finir des études d'histoire de l'art et je commençais une thèse de doctorat qui avait pour sujet, parce que ma passion, ce sont les bijoux et l'orfèvrerie ancienne. Et donc, dans le cadre de la fin de mes études en histoire de l'art, je voulais entamer une thèse de doctorat qui alliait ma passion à mes études, et je voulais donc faire une recherche sur l'orfèvrerie au Moyen-Âge. Alors je fais partie d'un club de femmes, puisque j'ai fait ma thèse de doctorat assez âgée, et c'est un club de femmes assez chic, et nous partons faire un voyage à Londres, et par hasard, et comme quoi dans la vie il n'y a pas de hasard, je suis assise à côté d'une dame dans un bus et qui me dit « qu'est-ce que tu fais pour le moment ?» Je lui dis « je commence une thèse de doctorat », je lui dis mon sujet de thèse, je décris un peu et elle me dit « oh, c'est incroyable ça, figure-toi que dans ma famille, on a un collier du Moyen-Âge, si tu veux le voir et le mettre dans ta thèse de doctorat, je t'organise l'affaire ». Et je lui dis très poliment, écoute, tu es bien gentille, mais ma thèse ne porte pas sur des bijoux, mais sur de l'orfèvrerie. Et es-tu bien sûr que c'est un collier du Moyen-Âge? Parce que la probabilité est quand même infime. À mon avis, c'est plutôt néo-gothique, c'est plutôt du 19e. Et elle me dit, non, je te jure, non. Et puis en plus, tu sais, c'est quand même pas un collier comme les autres. Donc c'est un peu entre l'orfèvrerie et les bijoux. Je vous avoue que j'étais très sceptique, que poliment j'ai dit, écoute, éventuellement, et puis j'ai changé de sujet. Heureusement, le sort ne m'a pas lâchée et 15 jours plus tard, cette gentille dame me rappelle en me disant « Est-ce que tu veux rencontrer l'oncle de mon mari chez qui se trouve ce collier ?» Et par politesse, je n'ose pas dire non et j'y vais vraiment avec des pieds de plomb en me disant « Je vais perdre mon temps parce que je suis sûre que je vais tomber sur un bijou néo-gothique qui n'aura rien à voir. » J'arrive dans une banlieue chic de Bruxelles, j'arrive chez un vieux monsieur très élégant, aristocrate, et ce monsieur m'amène dans la cuisine. Je trouve ça déjà très surprenant. Et là, il ouvre un placard, il sort un sac en plastique, un sac de course. Et de là, il sort un écrin rouge, qui n'a pas l'air très ancien, enfin peut-être du 19e. Et je me dis, ah voilà, on y est, je vais voir une horreur. Il ouvre l'écrin, et là, j'ai une crise cardiaque, parce que je vois un collier comme j'ai jamais vu de ma vie. Il est composé de 16 médaillons en argent qui sont des espèces de bas-reliefs qui font chacun plus ou moins 4 cm sur 5 cm sur 1,5 cm de hauteur. Je vois qu'il s'agit plutôt de personnages qui rentrent et qui sortent de ce qui semble être une mine et des médaillons qui représentent des fours particuliers et 3 médaillons qui représentent des intérieurs gothiques avec des échanges entre personnages, des tables. Et donc, le monsieur me dit très gentiment, voilà, je vous présente le collier du doyen de la corporation des orfèvres de la ville de Gand. Nous sommes une famille aristocrate d'origine gantoise et il est dans notre famille depuis le milieu du 19e siècle. Il se fait que ce monsieur était par ailleurs généalogiste, donc il avait énormément d'archives chez lui, il avait fait beaucoup de recherches, et il pouvait prouver que ce collier était dans la famille depuis 1843. Mais quand même, je me dis, au 19e, on a fait beaucoup de bijoux néo-gothiques, méfiance. Je rentre chez moi, et comme il se fait que les bijoux et l'orfèvrerie sont ma passion depuis toujours, j'ai une bibliothèque assez conséquente, et j'ouvre un livre de ma bibliothèque, au hasard, qui s'appelle « Le livre d'or » des métiers d'art, et je tombe nez à nez avec la gravure de mon collier. Je dis déjà mon parce que à ce moment-là, il s'est passé une sorte de fusion entre lui et moi, et je vois cette gravure, et il est écrit en 1850, ce collier appartient à la famille Intel, qui est bien la famille chez qui je l'ai trouvé, et c'est le collier du doyen de la Corporation des Orfèvres de Gand. Donc là, j'avais la preuve que ce n'était pas un faux du 19e, puisqu'en 1850, il est déjà connu comme une antiquité. Et là, je vous avoue que je suis excitée comme une puce et que je commence à chercher dans tous les sens, à collecter un maximum d'informations. Et donc, je fais un petit travail de recherche pendant 3 mois en cachette et je convoque mon comité de thèse pour leur demander d'ajouter le collier à ma thèse de doctorat. Mon comité de thèse se réunit, j'explique un peu où j'en suis, et puis je dis, et en fait, j'ai fait une petite bêtise, c'est que je me suis permis de faire une petite digression dans ma recherche, parce que j'ai trouvé ceci, et je leur mets sous les yeux la photo du collier. Et là, il y a un blanc. Et puis, il y a un de mes directeurs de thèse qui me dit, mais enfin alors, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez trouvé? Mais c'est comme ça qu'on rate une thèse de doctorat. C'est en se dispersant comme ça. Et donc je me dis, mon Dieu, j'ai fait une erreur fondamentale. Je suis presque en pleurs. Elle me dit, mais bien sûr qu'il faut incorporer ce collier, mais je vais vous dire plus. Il faut arrêter l'autre sujet, vous redéposer un sujet thèse et vous recommencer une thèse sur ce collier. Bref, je fais ça, je redépose un sujet de thèse qui a comme sujet le collier du doyen de la Corporation des Orfèvres de Gand. Et il se fait que pendant 6 ans, je vais être confrontée à une recherche qui m'amène dans tous les sens à propos de ce collier, qui deviendra littéralement mon compagnon de vie, avec lequel je vis toute la journée parce que j'ai fait des grandes photos dans mon bureau de chaque médaillon, des 16 médaillons, et c'est devenu une quête. Donc je me lance dans la découverte des mineurs et de l'histoire des mineurs, un univers qui est tout à fait éloigné du mien, et de l'histoire de l'art, parce qu'on est plutôt dans l'histoire des techniques. Et j'ai fini par comprendre qu'il s'agissait d'un collier dédié aux minerais de plomb argentifère. En fait, toute l'Europe centrale est bourrée de mines d'or et d'argent à partir du XIe siècle. Et donc là, je me dis, en fait, je cherche une aiguille dans une botte de foin. C'est pas ça qui va me permettre de localiser le collier. Je me dis, mais à quoi sert ce collier? Et il faut savoir qu'il y a une particularité dans le collier, c'est que dans certains médaillons, des éléments sont anormalement grands. Or, le médaillon central, dans chaque publication, on a été dire qu'en fait ce médaillon central était maladroit par rapport aux autres, parce que le personnage central est beaucoup plus grand. Pourquoi on a agrandi ce personnage? Et ça paraît stupide, mais ça m'a pris 3 ans pour comprendre qu'en fait ce personnage, c'était le personnage pour lequel le collier était fait. C'est pour ça qu'il était au centre et qu'il était plus grand. Et qui est ce personnage? Il y avait un indice, c'est qu'il tient un bâton. Et qui tient un bâton dans le domaine des mines? C'est le juge des mines. Et donc là, bingo, j'ai compris que les juges des mines portaient des colliers et que donc mon collier n'est pas un collier de corporation, mais un collier de fonction. Et je finis par comprendre qu'en fait, c'est ce qu'on appelle en histoire de l'art un unicum ou un apax, c'est-à-dire un objet unique. Il n'y en a pas d'autre. Je n'ai aucun collier qui représente la description d'un métier de A à Z. Et il y a eu une exposition qui a été organisée à Kutná Hora, qui se trouve à 60 km de Prague, et qui est une ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO, et qui était à l'époque le centre de l'exploitation des mines, et qui était une ville très très riche, tout le centre est encore gothique. Alors c'est marrant parce que quand il est parti, pendant plus de 4 mois, il n'était pas là.
Le collier.
Le collier. Et donc, en fait, vous savez, quand vous faites une thèse de doctorat avec un objet comme ça, ça devient une personne. Et donc, je me suis mise à écrire un petit journal à part où j'explique la séparation avec le collier. Et en fait, le collier est comme un amant. Je le quitte Je l'abandonne pendant 4 mois, je lui dis au revoir et je le regarde droit dans les yeux. Et je dis, je le regarde droit dans les plaquettes. Et je lui fais mes adieux et je lui dis, on se retrouve dans 4 mois.
Et 4 mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, hélas, il est rentré en Belgique et il est retourné dans son écrin, dans son sac en plastique, dans son petit placard. Et l'idée, c'est d'en fait pouvoir clôturer l'historique de cette pièce et qu'un jour, ce collier sorte de l'ombre, revienne en pleine lumière et qu'on le mette en dépôt dans un musée pour qu'il puisse être admiré de tous.
Donc je m'appelle Aurélie Éloyer, voilà, et je suis musicienne et j'enseigne la musique. Alors j'ai commencé vers 7-8 ans au violon, et donc j'ai repris ensuite au tout début du collège à l'alto, voilà, et j'ai plus arrêté. Alors, j'ai mis très très longtemps à oser formuler que peut-être je voulais en faire mon métier. L'espèce de honte de dire que je voulais être musicienne, de ne pas être à l'aise avec ça. C'était un monde très, très éloigné du mien. Et donc, il y avait une surtimidité par rapport au luthier. Aller voir un luthier pour choisir un instrument. Ce qui fait que je me suis toujours un peu trompée dans mes premiers choix d'instrument, avec un premier instrument qui avait un défaut même hein, de... de proportion, qui faisait que j'avais la main gauche qui était toujours en extension parce que c'était beaucoup trop grand. Et là, je me suis encore complètement plantée. Et puis quelqu'un a dit, ah ben moi j'ai un instrument à vendre. Alors, donc du coup, j'ai rencontré un alto, on va dire, mais encore quelque chose de trop grand, trop lourd pour moi. Un moment assez étrange de ma vie. Puis à un moment, je me marie avec quelqu'un de très gentil, très bien. Et puis au bout d'un an ou deux de mariage, on se rend compte que c'est la catastrophe. Quand je dis catastrophe, j'habitais au 6e étage, je me mettais à regarder le rez-de-chaussée. Hein. Donc il faut, voilà. Et je comprends après que c'est toute ma vie qui sonne faux. Et à ce moment de la séparation où j'ose franchir ce pas, eh bien, je décide, je sais qu'il faut que je change d'instrument. Et une nuit... Voilà, je me dis, je vais y aller et j'entends le son que je veux. Je sais quel instrument je veux. Et là, le matin, je vais chez un luthier à Paris. Et puis, il me fait essayer un premier instrument qu'il a lui-même construit. Et là, c'est le son que j'ai imaginé la nuit. Alors, je repars avec pour pouvoir l'essayer. En connaissant son prix, qui était hors budget complètement pour moi. Et c'est un instrument à 15 000 euros. Donc là, des amis, notamment les personnes avec qui je faisais du quatuor, me disent « Mais non, enfin, on n'achète pas un instrument comme ça. » Donc je rends l'instrument. Et puis, à peu près 2 mois après, on arrive vers la fin de l'année scolaire. Je me dis « Et au fait, mon alto, là, une espèce de panique de passer à côté. Je me lève, je vais à Paris. Je vais chez mon luthier. Je dis « Je viens chercher mon alto. » Sur le coup, la couleur, tout ça, je le reconnais à moitié et je le prends dans les mains. Et là, j'y ai eu. C'est celui-là. C'était celui-là, il était revenu la veille. Et au poids, au toucher, et improbable à l'odeur, je le mets contre moi et c'était lui. Et je repars avec et tout se passe très bien. Tout ce que je voulais, ça passait. Voilà. Il n'y avait plus jamais la hantise de louper quelque chose. Je savais qu'il suffisait de travailler pour y arriver. Mais je savais qu'en concert, ça passerait. Enfin, voilà, très peu de... une confiance en fait absolue en instrument en fait. Donc arrivent des vacances d'hiver, on part au ski tout simplement, et on revient une semaine après. On revient de nuit, hein, on arrive assez tard le soir, on rentre dans la maison, c'est mon compagnon qui est rentré le premier avec ma fille, et il me dit on s'est fait cambrioler. Alors là, c'est comme un uppercut. Hein. Je lui dis, ça va? Il me dit, oui, ça va, enfin non, mais oui. Il y a une pièce avec une verrière, et là, je vois tout de suite le vide. Je lui dis, la boîte est partie, il est parti. Je sens, très étrangement, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, comme si un poids était parti, c'est-à-dire je me sens plus légère, je ne sais pas pourquoi. Dans ce coup, je sens comme un poids aussi qui s'en va. Et puis aussi, de me dire, mais ils sont cons. Ils ont fait, pourquoi ils l'ont pris? Il peut pas se revendre, il est reconnaissable, ils ont fait une connerie. Ils vont le ramener, ils vont le rapporter. Et la semaine suivante, c'est peut-être pathologique, je regarde tous les soirs autour de la maison, dans le jardin, s'ils l'ont pas rapporté. Et pied de nez au cambrioleur, j'avais un deuxième alto. L'alto qui était très difficile à jouer, mais qui m'a quand même accompagnée pendant de longues années. Je le retrouve, un peu comme on retrouve un vieux copain. Premier jour, oh super. Deuxième jour, troisième jour, ça va pas aller. C'est pas seulement parce qu'il est difficile à jouer, parce que je sais le jouer, je l'ai joué, mais c'est que je réalise que ça me renvoie vers le passé, cet instrument, et que je ne peux plus jouer avec lui. À partir de là, je programme plus rien, plus aucun projet. J'attends que mon alto revienne. On arrive vers le mois de mai, fin de l'année scolaire, fin des projets avec les enfants. Depuis longtemps, je tiens absolument à aller dans les classes de CP. Mais c'est l'endroit où je décide, depuis quelques années, à chaque intervention, de sortir mon instrument, même quelques minutes, et de jouer. Et j'arrive à la toute fin de ce projet. Je réalise que c'est la dernière fois que je vais les voir avant le spectacle. Et je dis, il faut que je joue. Et là, il y a une vague de fond qui remonte. C'est la première fois que je pleure, je crois. Ça se passe le soir, je m'endors, c'est voilà l'heure où on pense. Et là, une énorme douleur qui arrive. Arrivent les vacances. On part avec les enfants en vacances, on part en Irlande. Et au moment où on est sur les falaises, au moment où il y a ces grands espaces, je sens cette vague qui remonte, ce manque, cette douleur, la colère aussi qui commence à arriver. Et puis, quand je reviens de vacances, je ne vais pas chez le luthier. J'ai besoin de silence. Je laisse du silence, je ne touche plus à rien. La rentrée arrive. Il va falloir quand même que j'ai un instrument, quelque chose qui me convienne. Et je passe un coup de fil au luthier. Et donc, c'était la semaine dernière. Et puis, je trouve un magnifique instrument, mais très différent parce qu'il est beaucoup plus petit. Et là, ça fait une semaine que je suis avec lui. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec la première rencontre que j'avais faite il y a 9 ans. Mais voilà, j'ai un instrument à la maison que j'aime beaucoup, auquel je fais une place. Mais à chaque fois que je lui fais une place, je culpabilise. Ou alors non, je ne culpabilise pas, mais ça me fait mal parce que je pousse l'autre quelque part. J'ai la sonorité de l'autre qui vibre en moi encore, je pense.
Je m'appelle Jean-Claude Cazenave, je suis antiquaire depuis une quarantaine d'années et j'ai passé mes 25 dernières années à tout simplement me spécialiser dans le jouet ancien. Entre 1850 et 1950, en gros, j'ai l'habitude de dire entre Napoléon III et Charles de Gaulle. Alors, la plupart du temps, le jouet est la chose que l'on oublie le plus facilement dans une famille, les jouets anciens. Pourquoi ? Parce que ça a appartenu aux enfants, ça a été utilisé par les enfants, c'est quelque chose de ludique. Il ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un, ou très peu de gens, pourraient comprendre que certains jouets peuvent valoir très cher. Or, donc un jour, une trouvaille que j'ai fait particulièrement, c'est tout simplement un commissaire-priseur donc, qui m'appelle à Paris, dans un hôtel particulier. Donc ce commissaire-priseur m'appelle, il se trouve que sa propriétaire, de l'étude qu'il occupe, habite dans le même immeuble, et cette propriétaire décide de nettoyer son grenier pour tout simplement loger un petit-fils qui vient à Paris et qui veut faire des études, etc. Elle arrive dans le grenier, Elle voit qu'il y avait beaucoup de choses à faire, elle voit surtout qu'il y avait beaucoup de choses à déménager. Et entre autres, elle tombe sur une malle de voyage. Je rencontre donc et le commissaire-priseur et la dame propriétaire qui me dit « Bah écoutez, monsieur Cazenave, voilà, je suis content de vous rencontrer. Ah, il se trouve que, bon, je ne sais pas si je vais la vendre, mais enfin, je vais quand même vous montrer la poupée. C'est une poupée de famille. » Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc j'ouvre la malle et je suis déjà interloqué par une main, parce que la poupée était démontée. Je reconnais la main d'une poupée exceptionnelle. Exceptionnelle. Et quand je dis exceptionnelle, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que, pour vous dire en exemple, depuis 40 ans que je les fréquente, toutes ces demoiselles, j'ai dû en rencontrer deux. Deux. Et là, j'en avais autant en une fois que les 40 ans en arrière. Pourquoi ? Parce qu'il y en avait deux poupées. Je commence à fouiller dans le coffre. Je commence à trouver le corps, un corps démonté, pas en très bon état. Je trouve une deuxième main. Je trouve une tête. Je regarde encore dans le coffre. Je trouve un deuxième corps, une autre tête, et je trouve dans un papier marqué « tête de rechange », je trouve deux autres têtes que les gens, à l'époque, avaient tout simplement achetées au cas où ils casseraient les premières. Donc c'est exceptionnel. Et cerise sur le gâteau, si j'ose dire, tous les vêtements que je trouve avec, donc il y avait un trousseau d'hiver, un trousseau d'été, il y a même un trousseau de plage, rarissime, un trousseau de plage. Tous les vêtements étaient marqués d'une étiquette du Nain Bleu, le fameux magasin au 19e du jouet ancien à Paris, qui était rue Saint-Honoré. Alors le but, bien sûr, c'est quand vous allez dans une adresse comme ça, c'est d'arriver à sortir un objet, l'objet, pour le vendre au profit, bien sûr, du vendeur. Mais vous allez avoir des gens qui vont vous donner l'accord ou pas pour le vendre. Et quand elle m'a posé la question à savoir « qu'est-ce que vous pensez ?», je lui ai dit de but en blanc « Madame, c'est absolument exceptionnel. » À ce point-là, qu'elle me fait, je lui ai dit « écoutez, madame, ça vaut très cher. » Alors, pour vous dire le prix qu'on le vendra, je ne peux pas vous le dire, puisqu'on le saura une fois que le marteau sera tombé. Alors, dites-vous bien qu'il y a une histoire aussi autour de cet objet, autour de ces objets, autour de ces deux poupées. Elles appartenaient à une petite fille dans les années 1860-70, et cette petite fille est morte très tôt, très jeune. Elle est morte à une douzaine d'années. Elle est morte du typhus. Et c'est un peu la raison pour laquelle on a quand même réussi à trouver cette poupée qui n'a pas été, en fin de compte, beaucoup manipulée. Parce que les gens de la famille ont dû garder cette poupée en souvenir dans un premier temps et ensuite peut-être ne pas trop la manipuler dans un deuxième temps, parce qu'une petite fille qui a eu le typhus, peut-être qu'on ne sait pas si la poupée n'a pas aussi le typhus. Je ne sais pas, j'essaye de me mettre à la place de ces gens-là il y a 150 ans maintenant. Et donc, dans ma tête, moi, je vite fait mon calcul, je pensais à un prix aux alentours de 60-80 000 euros, ce qui était absolument exceptionnel. Pour une poupée ancienne, c'est exceptionnel. Donc la dame me dit, Monsieur Cazenave, laissez-moi quelques temps pour réfléchir, pour exposer ce que vous m'avez dit à donc ma famille. Ça ne devrait pas être bien long. Je pense que sous 8 jours, je vous donnerai une réponse. À partir du moment où j'ai quitté cette dame, j'ai attendu fébrilement pendant des journées entières. J'ai attendu fébrilement qu'elle me rappelle. Et il se passe 2 jours, 3 jours, 8 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, pas de nouvelles. Et moi j'avais peur. J'avais peur que justement, en ayant donné une estimation assez basse par rapport à ce que ça peut valoir, J'avais peur que tout simplement quelqu'un mette au-dessus et de ne pas avoir la chose. Et au bout de 15 jours, le commissaire-priseur m'appelle et me dit « J'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. » La bonne, c'est qu'elle nous donne les poupées à vendre. Et la mauvaise, c'est qu'elle m'a imposé un prix de réserve de 80 000 euros. Un prix de réserve étant un prix en dessous duquel on ne peut pas vendre. Et je lui ai dit, c'est deux bonnes nouvelles. Parce que nous les avons à vendre, et je pense qu'avec le travail que l'on va faire, les 80 000 seront atteints, et j'espère bien dépassés. Et elle ne regrettera pas de nous les avoir confiés. Voilà, donc la vente arrive. J'ai reconstitué les trousseaux, j'ai reconstitué les poupées, je les ai réassemblées de manière à pouvoir les photographier. J'ai vendu une poupée seule, habillée, j'ai vendu une autre poupée seule, habillée, j'ai vendu une tête de rechange seule, une tête de rechange seule encore. Toujours est-il qu'il y a eu à peu près une demi-heure d'enchères. Il y a une tête qui est partie en Angleterre, une deuxième tête qui est partie au Japon. Une tête a fait à elle toute seule 25 000 euros, à elle toute seule. Donc c'était quelqu'un qui avait un corps qui traînait depuis X temps. Peut-être un corps dont la tête avait été cassée et qu'il a récupéré. Comme ça s'est fait qu'en une seule taille, ce n'était pas du tout une faute de remonter une tête sur le corps. Et lorsque nous avons eu vendu l'ensemble, nous sommes arrivés à un prix de vente de 130 000 euros. Donc la dame qui était dans la salle était tétanisée. Était ravie malgré tout, parce que, bien sûr, le résultat était là. Je pense qu'elle a dû se dire qu'elle était, elle avait une très bonne idée de faire refaire son grenier.
C'était Les objets d'une vie, collier, alto et autres histoires extraordinaires. Reportage Stéphanie Thomas et Karine Lelouette. Réalisation Cécile Lafont. Merci à Laure, à Jean-Claude et Claudine, à Élise, à Marie-Laure et à Sophie Odette. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Aurélie Marseille.